Genève. Côté. Nature.
Bonsoir tout le monde, vous êtes dans l'émission Genève, côté nature. Je suis Virginia et je suis accompagnée de ma sœur jumelle Émilie.
Bonsoir.
Nous avons créé toutes les deux l'association NARIES, qui travaille pour la protection de la nature et la sensibilisation du public à la problématique environnementale. C'est dans cette optique de sensibilisation que nous avons voulu lancer cette émission de radio, qui parle à la fois de ce que nous pouvons tous faire pour protéger notre planète et de ce que d'autres personnes font pour améliorer les connaissances sur la nature qui nous entoure.
Parce que oui, pour protéger, eh bien, il faut comprendre. Et pour comprendre, il faut étudier, observer et prendre le temps d'analyser qui sont réellement toutes ces espèces qui partagent notre planète et pour qui il faut que nous, humains, fassions l'effort de préserver l'environnement.
Genevoise d'origine, nous nous sommes expatriés à Neuchâtel pour suivre nos études universitaires parce que l'université là-bas était plus axée sur l'écologie et le fonctionnement des écosystèmes que sur la biologie moléculaire comme c'était déjà le cas à Genève, à l'époque du moins. Et c'était bel et bien ce qui nous plaisait. En plus, nous avons eu la chance d'avoir dans nos professeurs quelques-uns des pontes dans leur domaine qui nous ont transmis, en plus de leurs incroyables connaissances, leur passion du vivant.
Je me souviens d'ailleurs d'une après-midi où c'était pour un travail pratique. L'assistante de notre professeur avait caché des balises tout autour de l'université et on avait dû utiliser des antennes de télémétrie pour les retrouver.
Oui, ou alors il y avait d'autres sorties plantes avec notre professeur de botanique, M. Kipfer, où on voyait tellement d'espèces qu'on finissait par les écrire en phonétique dans notre cahier pour aller plus vite. Et puis le soir, on cherchait tous les noms en rentrant à la maison.
C'est ça qui était vraiment chouette à Neuchâtel, le côté terrain, l'approche pratique et concrète de tout ce qu'on apprenait pendant des heures dans les amphithéâtres. Non pas que, et je m'en souviens bien, on aimait passer des soirées à enregistrer dans notre tête les noms de toutes les familles de coléoptères grâce aux tiroirs à insectes dans les labos.
On en a passé des heures là-bas. Toujours est-il que nous avons amassé une quantité astronomique d'informations grâce à nos études et après avoir obtenu notre bachelor en biologie, nous avons évidemment continué sur notre lancée en commençant notre master en EEE, en éco-éthologie évolutive, soit l'étude du comportement des animaux en milieu naturel dans une optique évolutionniste. Alors nous étions un groupe de 5 copines et puis un jour on a eu la chance de voir notre professeur principal, M. Redouane Pchari, arriver vers nous pour nous dire « Les filles, j'ai 5 masters disponibles en Afrique du Sud, vous voulez y aller ?» Il n'a pas fallu longtemps pour nous décider et on est parti 8 mois en Afrique du Sud, au nord-est de Johannesburg, dans la réserve de Loskopdam, dans la province du Mpumalanga.
Alors là-bas, on s'est répartis en binôme et vu qu'on était 5, une de nous a fait équipe avec un autre étudiant italien. Le but de nos études, c'était de faire des études coordonnées et c'était de pouvoir étudier des singes vervettes sauvages en ayant à reconnaître individuellement que deux groupes puisqu'on était en binôme. Parce qu'il faut le dire, au début, c'est pas simple d'arriver à identifier des singes.
Et non. Et les singes vervettes sont en fait des petits singes gris-bleus avec le visage noir, entouré de blanc et les parties génitales masculines bleues et rouges.
Original.
Étonnant. Ils vivent dans des groupes plus ou moins grands et sont très sociables comme la plupart des primates.
Ce qui était sympa, c'est que c'était une première en primatologie d'avoir une étude où on pouvait comparer les données sur 6 groupes de singes sauvages. Normalement, c'est vrai que les études en milieu naturel portent sur un ou deux groupes, rarement plus, et même en captivité, c'est pas courant d'avoir une comparaison sur de nombreux groupes d'animaux à la fois. Et c'est ce qui a rendu les études à Loskopdam si intéressantes.
Mais pour pouvoir étudier les singes dans le bush sud-africain sans qu'ils modifient leur comportement à cause de notre présence, il fallait faire d'abord ce qu'on appelle une période d'habituation. Alors normalement, les parties terrain des masters durent 4 mois, mais nous avons dû partir 8 mois pour en passer 4 à habituer les animaux à notre présence d'observateurs, et ensuite 4 autres mois à prendre des données qui n'étaient du coup plus biaisées, puisque les singes avaient repris leur comportement naturel malgré notre présence.
Et c'est grâce à cette expérience de terrain qu'on s'est assez vite rendu compte que ce métier était effectivement le bon pour nous, parce qu'en fait, c'est ça qui nous fait vibrer. Quand vous vous retrouvez seul, au milieu d'une forêt d'acacia, avec des singes qui vivent leur vie au-dessus de votre tête, et des fois au sol des buffles ou des rhinocéros, ou même des mambas noirs qui passent à proximité, et que vous vous devez d'être humble et de rester discret, parce qu'en fait, c'est vous qui êtes l'intrus dans l'équation. Vous êtes chez ces animaux, dans cette nature sauvage, et si vous ne respectez pas les règles, si vous vous prenez pour un humain dans toute sa splendeur avec son arrogance et sa supériorité autoproclamée, vous risquez de ne pas faire long feu.
C'est peut-être un petit peu extrême de dire ça, mais le fait est que nous, qui voulons régir le monde, le façonner pour qu'il nous serve du mieux possible, quand on se retrouve face à face avec un léopard ou même avec un énorme scolopendre venimeux, je vous promets qu'on ne fait pas le malin,
c'est sûr.
Croyez-nous.
Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos singes. Parce que nous pouvons vous parler d'Afrique pendant des heures, mais ce n'est pas le sujet qui nous importe aujourd'hui. Dans cette émission, qui est un côté science, On va parler des études qu'on a faites là-bas pour la première fois de notre carrière, c'est-à-dire l'observation du comportement animal en milieu naturel, soit l'éco-éthologie. Alors, pour comprendre ce que cette discipline implique, voilà un rapide résumé des grands noms qui l'ont créé. On en avait parlé un petit peu dans l'émission de lancement il y a quelques semaines, mais reprenons par le début si vous le voulez bien.
Alors, le terme éthologie, étude du comportement, a été défini en 1854 par un naturaliste et anatomiste français, Isidore Geoffroy Saint-Hilaire.
Mais les études sur le comportement animal avaient en fait déjà été lancées bien longtemps avant par Aristote, environ en 300 avant Jésus-Christ. Ensuite, il y a eu plein d'autres personnes comme Cuvier, Darwin, Lamarck et j'en passe. Le but d'une étude sur le comportement, c'est de comprendre un animal, car cet animal ne peut pas nous parler. Il ne peut pas nous dire ce qu'il ressent, il ne peut pas nous dire ce qu'il pense, ou ce qu'il veut faire, ou pourquoi il fait les choses. Il faut considérer les animaux comme des boîtes noires, et en fait, il faut les étudier pour pouvoir comprendre leur fonctionnement et faire le lien avec les processus mentaux ou internes qui sont à l'origine de tel ou tel comportement.
Et l'ensemble de ces processus intellectuels, c'est la cognition. Et la lutte est dure pour faire comprendre à certains humains qu'avoir des capacités cognitives n'est pas l'apanage de l'humanité et que tous les autres animaux ont des facultés intellectuelles plus ou moins développées, mais surtout adaptées à leur vie et à leurs besoins.
Et alors, il y a des millions de comportements qui sont incroyables et qui valent la peine d'être étudiés. Alors, pendant notre séjour en Afrique, chaque étudiant avait une problématique à part entière. Alors, pour moi, Émilie, j'ai focalisé mon étude sur le régime alimentaire des singes. Je regardais ce qu'ils mangeaient. Et ça pouvait être plein de choses, ça pouvait être des fruits, des feuilles, de la sève, des arbres, mais il y avait aussi de temps en temps des œufs, des insectes et des chongololos.
C'est des sortes de très gros mille-pattes inoffensifs.
Et finalement, une partie non négligeable à considérer, c'était la nourriture humaine. En fait, on avait un des deux groupes que nous observions avec Virginia, qui était celui qui vivait à proximité d'un camp de pêcheurs, où il y avait trois petits cabanons que les touristes pouvaient louer pour passer le week-end, pour profiter du lac de la réserve, pour aller pêcher et tout ça. Et dans cette nourriture humaine, le choix était large, malheureusement. Il y avait des chips, du pain toast, des barres de céréales. En fait, les gens, ils laissaient parfois toutes leurs affaires sur la terrasse sans se rendre compte de l'importance que ça avait pendant qu'ils partaient pêcher. Ou bien, ils laissaient une fenêtre ouverte carrément. Et il n'en fallait pas plus pour nos singes parce qu'en fait, c'est malin un singe. Et oui, et même si ce type de nourriture n'est de loin pas la meilleure pour ces animaux sauvages, ils étaient bien trop habitués.
Et vraiment très efficaces. Oui. Hein. On les a vus un jour ouvrir un bocal de poireaux sirop sur la terrasse, ou alors la fermeture éclair d'un sac de papier de toilette. Rien ne leur résistait. Et tant pis pour les touristes, hein. Il ne fallait pas oublier que vous étiez dans une réserve avec des animaux sauvages.
Et en regardant ce que les vertes mangeaient, j'ai comparé la quantité de telle ou telle nourriture pour savoir s'ils mangeaient en fonction de la disponibilité des ressources.
Par exemple, s'ils mangent plus d'acacia parce qu'il y a plus d'acacia, ou s'ils mangent plus d'œufs en période de nidification des oiseaux parce qu'il y en a plus à disposition.
Voilà. Ou s'ils avaient ce qu'on peut appeler une préférence alimentaire qui les faisait choisir une nourriture, même si celle-ci était en quantité limitée. Il s'est avéré qu'ils avaient bel et bien des préférences pour certaines ressources et que ces préférences changeaient en fonction des groupes de singes, comme une culture. Et par exemple, le groupe de la baie aimait beaucoup manger des feuilles de celtis, ce qui n'était pas le cas pour des autres groupes qui peut-être préféraient les figues.
Et de mon côté, à moi Virginia, j'ai regardé si les singes vervettes montraient une tendance à la latéralisation, c'est-à-dire si on pouvait montrer comme chez l'humain une majorité de droitiers ou de gauchers dans l'espèce vervette, ou si la main utilisée n'avait pas d'importance. Alors pour chaque nourriture, on notait avec quelle main le singe avait mangé. Et en plus de la nourriture naturelle que les singes pouvaient trouver dans le courant de la journée, j'ai pu prendre d'autres données pendant les expériences d'une doctorante qui travaillait avec les singes, Erika van der Waal. Alors vous la rencontrerez bientôt dans un côté passion de cette émission. Elle faisait des expériences simples où les animaux pouvaient manger du raisin, ou des expériences un peu plus complexes où il fallait d'abord ouvrir une boîte avant d'atteindre une récompense. Alors ces expériences étaient faites pour étudier l'apprentissage au sein des groupes de singes, mais ça c'est un autre sujet. Toujours est-il que pour mon étude, on a montré que l'espèce vervette n'était pas latéralisée comme peut l'être l'humain, mais que certains individus montrent une latéralisation importante, jusqu'à plus de 90% des fois, pour un côté ou un autre, et que cette latéralisation augmente en fonction de la complexité de la tâche.
Donc ça veut dire que plus la tâche est compliquée, plus elle entraînera une latéralisation prononcée chez tel ou tel individu.
Nous allons faire maintenant une courte pause musicale avant de nous retrouver pour la suite de cette émission Genève côté science. Aujourd'hui, on va écouter Tomorrow de Frédéric Stahl. Alors cette chanson, elle fait partie du film Demain, et elle évoque le fait que le monde est en très mauvais état, et qu'il est grand temps de se réveiller et de faire ce qu'on peut pour améliorer la situation.
It's always so hard to see how things could turn out differently, but we're in a mess now. I feel it, we're facing a wall. Fight it out, wipe out the wrong. Fight for us, we must go on. The whole world is on hold now. I feel it, we're facing a storm. See the final show now. Face the final blow now. to the top of a tree. The sky is too covered to see. A picture of the horizon, a place where we can build a home. Fight it out, lose or win. Can't let go, won't give in. The whole world is on hold now. We'll do anything to survive.
C'était Frédéric Astal avec sa chanson Tomorrow. Nous revoilà sur Radio Cité pour l'émission Genève Côté Nature. Nous sommes Émilie et Virginia de l'association de la protection de la nature NARIES et aujourd'hui nous vous présentons le côté science de cette émission.
Et pour ce côté science, maintenant qu'on vous a un petit peu expliqué ce qu'on a fait dans nos études et pourquoi le comportement animal en milieu naturel, donc l'éco-éthologie, nous a autant fasciné, maintenant qu'on vous a un petit peu détaillé les sujets de nos thèses de master, nous allons vous montrer qu'il n'y a pas que chez les singes vervettes que les comportements sont incroyables.
D'ailleurs, je me souviens exactement du jour où j'ai appris le mot éthologie, et c'était bien avant l'Afrique et bien avant l'université, c'était sur un sujet bien moins passionnant. J'étais au Collège Claparède en cours de biologie avec Madame Jeanne Covillot, et en fait, pour introduire ce nouveau sujet, donc le sujet de l'éthologie, elle nous avait simplement fait un schéma avec une barrière et avec une poule devant, ou alors un chien, en nous demandant qu'est-ce qu'allaient faire ces animaux dans une situation pareille. Bah, le chien, de par ses origines sauvages, lointaines, venant du loup, il a forcément l'instinct de contourner un obstacle quand il en voit un, donc il va d'office partir le long de la barrière pour essayer d'en trouver la fin. En revanche, la poule a un petit domaine de vie, donc elle n'a pas conscience des grands espaces, et elle va faire quelques mètres le long de la barrière, ensuite elle va faire demi-tour, et ainsi de suite, sans jamais chercher ou trouver la sortie. Et je me souviens que ce qui m'avait marqué à l'époque, c'était surtout que quelqu'un avait un jour regardé ces animaux en se disant « Mais pourquoi ils agissent différemment ?» et avait cherché à y répondre. Alors ici, c'est vrai que c'est pas un exemple de comportement incroyable, mais le fait qu'on réfléchisse au « Pourquoi » m'avait interpellé. Alors voilà, c'est le début de l'éthologie pour moi. Mais passons à des exemples un peu plus farfelus.
Alors toutes les espèces montrent des comportements fascinants hein, pour arriver à leur fin, et ce dans tous les domaines, que ce soit pour se nourrir, pour trouver un partenaire sexuel, pour éduquer les petits, pour s'abriter, pour se déplacer, ou ne serait-ce que pour survivre par tous les moyens comme les parasites, tous les organismes regorgent d'inventivité. Alors on va passer un petit peu en revue certains comportements stupéfiants et en même temps assez drôles.
Alors dans le domaine de la séduction, les exemples d'animaux qui cherchent par tous les moyens à attirer leur partenaire sont nombreux. Mais certains ont des méthodes un peu plus sophistiquées que les autres. Par exemple, les jardiniers satinés sont des oiseaux d'Australie dont les mâles ont la particularité de créer des berceaux nuptiaux pour attirer les femelles et pour les courtiser. Et ces berceaux, ils les décorent avec différents éléments qu'ils trouvent dans leur environnement. Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être des coquilles d'escargot, des fleurs bleues ou des fleurs jaunes. C'est souvent ces couleurs qui sont prisées. Des exuvies, des feuilles jaunes, des plumes bleues, etc. Ça peut être plein de choses. Et selon l'arrangement de la décoration, Madame sera conquise et laissera le mâle la féconder, et sinon, bas les pattes, je vais chercher ailleurs. Alors il y a beaucoup d'études qui ont pris cette espèce comme sujet, mais je voulais en citer une en particulier, c'est celle de Borgia et Gore en 1986, et ces chercheurs ont regardé la compétition sexuelle entre les mâles. Alors en effet, les jardiniers ont pour leur habitude de venir voler les décorations du voisin, qui est leur rival, pour rendre son berceau à lui moins attractif pour les femelles. Et ce qui est dingue, c'est que toutes ces fameuses décos sont pas comestibles, donc elles sont totalement inutiles pour les individus, en dehors de juste pour la frime. Ces deux chercheurs ont décidé de marquer les plumes ou les éléments qui étaient utilisés comme déco pour ensuite voir à quel point ils passaient d'un berceau à un autre en fonction des vols. Ils ont ensuite comparé ces statistiques au succès de reproduction des mâles et ils ont pu voir que le vol des décorations était un élément très important pour déterminer la qualité d'un berceau et donc le succès de reproduction d'un mâle. Et le taux d'un vol est également corrélé avec le nombre de plumes ou d'éléments dans le berceau. Les voleurs les plus actifs sont ceux qui vivent dans une zone où le nombre de berceaux est important. Et le même principe de séduction existe chez le poisson ballon bâtisseur qui vit dans les eaux du Japon. Vous avez peut-être déjà vu des images de ce petit poisson. Il construit des grands nids dans le sable d'un diamètre qui peut atteindre 2 mètres. Et sur cet endroit, il enlève tous les éléments parasites, toutes les petites coquilles et tout, pour que le sable soit vraiment très lisse. Et il forme avec ses nageoires des minuscules cavités en les battant très très fort. Mis tout ensemble, ça forme une œuvre très impressionnante. C'est un peu comme un mandala géant. Et comme pour les jardiniers, les femelles vont choisir leur mâle selon la beauté du nid et la finesse du sable sélectionné. Excusez-moi.
Au niveau de la nourriture, plusieurs études ont été menées en Angleterre avec des données qui datent des années 20, sur les mésanges principalement, qui viennent ouvrir les bouteilles de lait en fait sur les porches des maisons pour boire et entre autres se ravitailler en gras pendant les durs mois d'hiver. Alors, la grande question de ce comportement, c'est de savoir s'il est transmis d'une mésange à l'autre ou s'il est apparu spontanément dans différentes parties de l'Angleterre où le lait était livré en bouteille. Alors, d'après une étude de 2013 de Aplin Sheldon et Morand Ferron, il semblerait que le mécanisme derrière ce comportement soit à la fois de l'apprentissage social et à la fois de l'inventivité individuelle et que les juvéniles femelles et les mâles subordonnés apprennent plus que les individus dominants.
Okay.
En Nouvelle-Zélande, plusieurs observations particulières de moineaux ont aussi poussé les scientifiques Brocky et O'Brien à en faire une publication en 2004. Visiblement, les oiseaux avaient compris comment actionner les mécanismes d'ouverture automatique des portes d'un supermarché en volant devant les capteurs, et ce afin de trouver chaleur et nourriture à la cafétéria du centre. Alors les chercheurs néo-zélandais n'ont pas trouvé d'autres observations comme celle-ci dans le reste du monde, donc ils se sont demandé si c'était à cause d'un manque de report de ce type d'observation, ou si les moineaux néo-zélandais sont en fait plus intelligents que les autres.
Ils finissent vraiment leur article comme ça.
Oui, ils finissent leur article comme ça.
Un autre exemple lié à la nourriture est présenté dans une très vieille étude de Kauai en 1965. Alors, ce chercheur a pendant longtemps étudié une troupe de macaques japonaises sur l'île de Koshima, et notamment le comportement de frotter les patates douces pour en enlever sable, donc pour les nettoyer. Alors, dans ce groupe, une femelle qui s'appelle Imo a un jour, en 1953, initié le fait de laver la patate douce dans l'eau au lieu de juste la frotter. Et ce comportement s'est propagé dans le groupe, tout d'abord en des individus partenaires de jeu, puis ensuite en des individus parents, pour être finalement transmis de la mère aux petits. Et ensuite, y a eu des variations de ce comportement qui ont été observées. Il y a certains individus qui ont commencé à laver les patates douces dans de l'eau salée. Donc au départ, c'était peut-être parce que les individus dominants monopolisaient l'eau douce, ou quand la sécheresse tarissait le cours d'eau douce principal, par exemple. Mais petit à petit, les singes se sont familiarisés avec l'eau salée et ils ont probablement remarqué qu'elle donnait un bon goût aux patates parce que certains animaux ont commencé à la tremper dans l'eau toutes les deux ou trois bouchées, comme pour l'assaisonner. Et selon l'âge et selon le sexe des individus, ces comportements ont été plus ou moins reproduits dans le groupe. Mais au final, il y a même certains bébés qui ont démontré d'abord le comportement d'assaisonnement avant même d'avoir celui du nettoyage.
Alors oui, tous ces comportements sont fascinants. On a bien souvent envie de croire qu'ils sont généralisés à toute l'espèce. Mais alors attention, il ne faut surtout pas confondre anecdote et réalité.
Oui, par exemple, dans nos études, on a entendu parler du fait que certains corbeaux en Californie déposaient régulièrement de la nourriture, par exemple des noix, devant les roues des voitures arrêtées au feu rouge. Et ils semblaient profiter du passage des voitures pour broyer les noix et leur rendre la nourriture accessible. Et en fait, y a quand même des études qui ont été faites là-dessus pour déterminer si ce comportement était volontaire ou pas. Et il y a un chercheur, Crystal, qui a fait une étude en 1997 dans laquelle il a vraiment analysé le comportement des oiseaux en présence de voitures ou sans voitures ou selon différentes concentrations de trafic routier, etc. Et au final, les corbeaux déposaient une noix qui est une voiture ou pas. Et les interactions avec les voitures étaient donc accidentelles. Ça veut dire qu'on ne peut pas en conclure que les corbeaux utilisent volontairement les véhicules comme casse-noix.
Alors voilà, nous arrivons à la fin de cette émission qui a été un peu plus théorique que d'habitude, mais on espère que vous avez apprécié ces petites histoires. On va maintenant réécouter le son de Benoît, disponible en quiz sur les réseaux sociaux depuis vendredi.
C'était le chant d'une mésange noire. Bravo à celles et ceux qui ont reconnu cet oiseau.
Dans les prochains rendez-vous Nariès, nous organisons ce week-end la sortie nature du mois d'octobre pour espérer observer le cerf pendant son brame. Il ne reste plus beaucoup de place, mais si vous voulez nous accompagner, n'hésitez plus. Toutes les informations sont sur notre site internet www.nariès.ch.
Nous vous souhaitons une très bonne semaine et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain dans un nouvel épisode de Genève Côté Nature pour un côté passion avec Laurent Valoton, un ornithologue passionné qui travaille au musée de Genève.
Voilà, bonne semaine.